Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. Bonjour, Monsieur Lampron.
Bonjour, Madame Godreau.
Bonjour. Là, c'est sûr qu'en date même d'aujourd'hui, on comprend qu'il faut encore un peu parler au conditionnel. Le premier ministre a confirmé qu'il y a des démarches qui sont en cours parce que tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Lorsqu'on parle de droits et libertés, tu sais, un policier qui rentre dans ma maison, est-ce qu'il enfreint ça? Est-ce qu'il, justement, il vient de mettre le pied sur quelque chose qu'on connaît pas jusqu'à maintenant?
Ah, ben, c'est-à-dire, s'il rentre dans ma maison, il viole très clairement mon droit à la vie privée. En fait, tous les droits et libertés de la personne, ils ont un cœur et une périphérie. Et le droit à la vie privée, là, on est capable de structurer les activités, là, en fonction de ce cœur et cette périphérie-là, sur la base du critère de l'attente, l'expectative raisonnable de vie privée. Alors, est-ce que l'activité à laquelle je me livre, là, comme citoyen, comme justiciable, je m'attends à ce qu'elle tombe à l'intérieur de mon droit à la vie privée? Et bien sûr, tout ce que je fais à l'intérieur de ma maison, c'est considéré, là, juridiquement comme étant le véritable sanctuaire des justiciables. Alors, c'est pour ça qu'en temps normal, ça prend, et encore actuellement en temps de pandémie, ça prend un mandat délivré par un juge pour être capable d'entrer sans le consentement d'une personne dans sa résidence. Alors oui, clairement, il y aurait une atteinte au droit à la vie privée, là.
OK, parce que vous venez de nous l'expliquer, M. Lampron, jusqu'à maintenant. Donc, si toc, 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 on cogne chez nous, il faut qu'il nous présente. Donc, ça prend le mandat en question. Mais donc là, avec les discussions en cours, il n'aurait plus besoin de ce fameux mandat, comme on est en urgence sanitaire?
Ben, il va falloir voir, justement, parce que les droits et libertés, l'autre problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de blanc ou de noir, c'est toujours du gris, et ça dépend toujours du contexte. Donc, est-ce qu'il est possible, en temps d'urgence sanitaire, de restreindre davantage les droits et libertés qu'en temps normal? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement fait depuis le début, hein, quand on regarde tous les décrets et qu'on les analyse, il y a plusieurs restrictions aux droits et libertés, à la liberté de manifester notamment, de se rassembler, voire au droit à la vie privée parce qu'on avait fermé des commerces, qui sont considérés, à mon sens, comme étant des atteintes raisonnables au droit à la vie privée parce qu'on est en temps de pandémie. Ça passerait pas la route, le test des chartes, si tant est qu'on n'était pas en temps d'urgence sanitaire, mais là, actuellement, la jurisprudence fait en sorte qu'il y aurait des bonnes chances, si tant est que c'était contesté, de passer le test des chartes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir aux policiers et ces pouvoirs-là, peuvent-ils leur permettre d'entrer à l'intérieur des résidences pour vérifier si jamais il n'y a pas un party de plus de 10 personnes qui n'est pas en train de se dérouler à l'intérieur? Le diable est dans les détails. Il va falloir vraiment attendre de voir le décret pour évaluer la compatibilité constitutionnelle parce que les chartes demeurent en vigueur même si on est en urgence sanitaire.
OK. M. Lampron, je veux juste être sûr de bien comprendre la nuance entre ce qui pourrait se faire éventuellement et ce qui s'est déjà fait, c'est-à-dire au printemps, des gens qui ont reçu des amendes parce que ils ne respectaient pas les règles, notamment sur le nombre de personnes sur un terrain, dans un party, même des gens des voisins qui appelaient « Hey, mon voisin, ils sont 22 ». Donc, c'est quoi la différence? Parce que les policiers en ont déjà remis des contraventions. Là, c'est le fait d'entrer chez nous. Si un policier qui est sur mon terrain, est-ce qu'il contrevient à mes droits fondamentaux?
Bien, encore une fois, c'est ça qui est dur. C'est parce que, je donne un exemple. Par exemple, sur l'expectative raisonnable de vie privée. Vous vous promenez sur la rue, quelqu'un prend votre image. Donc, c'est protégé. Votre droit à l'image est protégé par votre droit à la vie privée. Il peut pas en faire ce qu'il veut. Mais votre expectative est moins importante parce que vous êtes dans un lieu public. Alors là, si vous êtes sur votre résidence, sur votre terrain ou à l'intérieur de votre maison, on s'en vient à l'automne, l'hiver, donc là, ça se passera plus dans la cour, ça va se passer dans les maisons, et que, par exemple, les rideaux sont tirés, pour que les policiers puissent agir à l'intérieur de votre domicile, là, vraiment, on va violer le cœur du droit à la vie privée. Alors, vous faites référence à des mesures qui étaient en place au début de la pandémie, alors qu'on était dans le cœur de la crise. Effectivement, ces pouvoirs accrus-là, qui n'ont pas été testés devant les tribunaux, mais semblaient constituer des limites raisonnables par rapport à l'urgence que traversaient les autorités. Donc, de donner ces pouvoirs-là aux policiers, ça semblait être raisonnable. Maintenant, dans le contexte actuel, il est possible qu'on se rapproche de la même situation qu'au début de la pandémie, parce que il y a des indices qui laissent croire que la courbe est peut-être en train de se réemballer. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose dont les tribunaux vont devoir tenir compte, si tant est qu'il y avait une contestation. en disant, par exemple, les nouveaux pouvoirs, on est dans l'hypothétique parce qu'on les a pas, les nouveaux pouvoirs, mais par exemple, on donnerait le droit aux policiers d'entrer sans mandat à l'intérieur d'une résidence, malgré l'opposition du propriétaire, ben là, il va falloir voir si ça, même en temps d'urgence, ça serait considéré comme étant une atteinte raisonnable au droit à la vie privée. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas le texte, là, c'est très, très difficile de se prononcer.
Monsieur Lampron, prochaine question, puis si vous êtes pas en mesure d'y répondre, c'est pas grave, là, c'est pas une question piège, oui. Mais évidemment, on reçoit toutes sortes de choses dans l'émission, des gens qui ont plus de difficultés, qui se disent ça va trop loin, mes droits fondamentaux, puis d'un autre côté, je reçois aussi complètement autre chose, puis je vous partage un peu ce que j'ai reçu. Quelqu'un qui me dit, est-ce que ça pourrait aller aussi loin que de dire quelqu'un qui ne respecte pas les consignes, qui a la COVID, qui contamine quelqu'un, qui a une preuve, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à accusation, condamnation et prison. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là un jour?
Ben, écoutez, si tant est qu'on parle de droit criminel, ça relèverait pas du provincial, ça relèverait du fédéral. Il y aurait la question de mettre une personne... Je suis pas un pénaliste, alors c'est difficile de me prononcer avec certitude là-dessus. Mais écoutez, à partir du moment où on sait qu'on est contagieux et qu'on a un comportement qui équivaut à une négligence grave, est-ce qu'on pourrait se servir à des dispositions qui interdisent qui criminalisent la négligence criminelle avec beaucoup, beaucoup de réserves? Parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas pénaliste.
Non, je comprends.
Tout est possible, c'est toujours une question de fait.
OK, M. Lampron, intéressant. Merci d'avoir été là avec nous.
Merci, Mme Godreau.
Merci, au revoir. Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire en droits et libertés de la personne à la Faculté de droit de l'Université Laval.